Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous, bien entendu, mais aussi avec notre invité. Alors certains le qualifient de tête brûlée, d'impertinent, de courageux, d'obstiné, de déterminé. Même pas peur, dit-il. Hein, voilà autant d'adjectifs susceptibles de qualifier ce reporter journaliste qui n'hésite pas à approcher l'épicentre de l'actualité, parfois quitte à se brûler les ailes. Les secousses ne lui font pas peur et il n'a pas peur de poser les questions qui dérangent, même s'il sait que parfois ses interlocuteurs, bah, évidemment, ils peuvent se fâcher au point d'en venir. Aux mains, on le verra tout à l'heure. Vous l'avez découvert pour beaucoup dans le Petit Journal, puis dans Quotidien et désormais Changement de chaîne. Hein, c'est sur LCI qu'il officie. Il met en lumière bah, ce que certains cherchent à mettre finalement dans l'ombre. Paul Laroutourou, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
Bienvenue dans le Buzz Télé, l'instant Paul, donc c'est le titre du rendez-vous que vous incarnez depuis la rentrée, hein, chaque jour à 20h35 sur LCI, une séquence au cours de laquelle bah, vous racontez un peu les coulisses de la campagne présidentielle et de la politique. Vous êtes aux premières loges, comment vous pourriez qualifier cette course à l'Élysée cette année ?
Je dirais qu'on est dans un faux rythme. On est parti le 30 août. Mon premier sujet, c'était sur Éric Zemmour. On est les premiers sur LCI. Elle va demander est-ce que vous serez candidat. À l'époque, il dit je ne peux pas vous répondre. Donc vraiment, c'est parti très vite. Il a explosé. Il est monté très haut dans les sondages au deuxième tour. Là, il s'est un peu affaissé lui-même. On est, je trouve, vraiment dans un faux rythme avec évidemment le Covid qui fausse à la fois le fait qu'on ne peut pas aller en voiture-bar, ce qui est le cas de tous les journalistes politiques. Il n'y a plus les voitures-bar. Et puis surtout, on a eu un moment de peur qu'il n'y ait pas de campagne tout court. Je pense qu'elle va avoir lieu, heureusement, mais on est sur un faux rythme avec des accélérations. Là, ça part, mais pas totalement non plus. Donc, en termes de reportage, c'est particulier. Clique. Et sur le fond, factuellement, Emmanuel Macron est encore très, très haut dans les sondages, il faut le dire. Et puis, évidemment, il y a la guerre des droites entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, et on va suivre ça de très près.
Et Macron, qui ne s'est pas encore déclaré, c'est quoi ? C'est une si longue attente pour vous ?
Oui, enfin, c'est vraiment un faux suspense. Dans l'émission spéciale Place aux jeunes, mercredi, à la fin, en brosse mes gens, le jeune dit « votez pour Emmanuel Macron ». Donc ça, si ce n'est pas une déclaration de candidature, c'est vraiment un faux suspense. Mais on sera là, dans l'instant Paul, le moment où il sera candidat dans la foule. A priori, ça, c'est ce qui en prend le chemin sur le terrain, évidemment. Le soir même, ce sera à 20h30 sur LCI.
Vous serez aux premières loges. Nous sommes avec Paul Laroutourou hein, sur le Figaro Live. Je rappelle, diffusé sur le figaro.fr également, la page YouTube de TV Mag. Bah, dites-nous si vous suivez l'instant Paul hein, sur LCI depuis la rentrée. Est-ce que vous auriez aimé peut-être le revoir peut-être dans Quotidien ? A priori, ça ne va pas se passer.
Non.
Que pensez-vous de son couple, entre guillemets, évidemment, avec Ruth Elkrief ? Dites-nous tout. En attendant, on retrouve Damien Canivès pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Paul.
Bonjour.
Allez Paul, on démarre systématiquement par les audiences télé de la veille.
Eh oui, et comme vous êtes là, figurez-vous que c'est TF1 qui enfile la médaille d'or hier à la suite de la série Une si longue nuit, cette fiction portée par Jean-Pierre Darroussin et Mathilde Seigner a rassemblé 3,7 millions de fidèles, un peu plus de 19% de part d'audience. Et ce qui est assez rare pour être souligné, c'est que c'est une hausse sur une semaine pour cette série. Donc bravo à TF1. France 2 dégainait un nouveau numéro d'envoyé spécial. La journaliste Élise Lucet s'intéressait au harcèlement scolaire et aux prisons russes. Deux sujets assez éloignés. Trois reportages au total qui ont captivé près de 2 millions de téléspectateurs. Juste derrière, et c'est une prouesse, une nouvelle prouesse, elle est signée C8. Cyril Hanouna prenait les rênes d'un deuxième numéro de Face à Baba. Il recevait Jean-Luc Mélenchon, inscrit dans la course à l'Élysée sous l'étiquette La France Insoumise. 1,8 million de téléspectateurs, un score qui est d'une rareté assez incroyable pour une chaîne de la TNT. C'est un peu moins néanmoins que le 16 décembre dernier, lorsque Cyril Hanouna recevait Éric Zemmour dans Face à Baba. Il avait à l'époque fait 400 000 téléspectateurs de plus. Et enfin, on termine avec une bonne note, puisque finalement, c'est vendredi, on reste sur de la bonne humeur. C'est Arte qui donnait le coup d'envoi de la fiction La Corde. Cette mini-série a dépassé le million de téléspectateurs, 5,3% du public.
Face à Baba, j'imagine, Paul, c'était une obligation professionnelle de suivre ce débat hier soir.
Non, on était à l'antenne, nous. Ouais. Au même moment, j'ai évidemment regardé Ruth Elkrief 2022, bien sûr. Non, bien sûr que non.
Votre réaction ?
Sur quoi ?
Sur ce débat ?
J'ai trouvé qu'il était beaucoup moins tenu que sur BFM, sur le fond, que Cyril Hanouna laissait vraiment beaucoup plus s'écharper sur la forme, alors que sur BFM, c'était plus profond. Et après, moi, il se trouve qu'on les a vraiment beaucoup au micro, donc je n'ai pas été surpris de leur position, parce qu'on les couvre assidûment sur LCI.
Et est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, finalement, que Hanouna entre dans la danse sur la politique, en recevant de plus en plus de politiques, et notamment avec cette nouvelle émission Face à Baba ?
La vraie question, c'est celle de Vincent Bolloré, c'est le même groupe, C8, ITL, tout ça. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un calendrier politique ou pas derrière ? Moi, j'en sais rien, je n'ai jamais rencontré Cyril Hanouna, je ne le connais pas, je ne connais pas Vincent Bolloré. Donc moi, je ne parle que de ce que je couvre, je suis un reporter, et donc je lis la presse comme tout le monde, mais je n'ai pas d'interaction directe avec eux, donc je n'ai pas d'infos à vous donner.
Ouais, mais en tant que citoyen, est-ce que vous trouvez ça bien ?
Moi, je crois en l'intelligence des gens, et je pense qu'il y, y en a pour tout le monde. Et il y a eu un moment hier que j'ai vu en replay qui était intéressant sur l'histoire de France et sur Michelet, et donc il y a eu aussi de la profondeur, et un débat que je trouve très intéressant poétiquement sur la créolisation. Donc je trouve ça intéressant sur le fond, même si je le répète, j'ai trouvé quand même que le débat était volontairement, peut-être pour le spectacle, pas très tenu.
C'est clair. On poursuit ces infos avec Hélène Manarino, qui était absente de la matinale de...
De LCI, bah oui, certains téléspectateurs voilà, sont éplorés et se demandent pourquoi Stéphane Etcheverry était ce matin encore seul à la tête de cette tranche. Eh bien parce que sa camarade de jeu, Hélène Manarino, est malheureusement positive au Covid-19, comme beaucoup de Français. C'est ce qu'elle a annoncé hier sur son compte Twitter, indiquant qu'elle avait rencontré le virus d'un peu trop près. Alors selon les nouvelles mesures sanitaires, la journaliste pourrait signer son grand retour à la tête de la matinale en début de semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi, à condition qu'elle présente un test antigénique ou un test PCR positif. En tout cas, on lui souhaite évidemment, bon rétablissement.
Alors Paul, vous êtes souvent sur le terrain, hein, vous suivre, on va revoir tout à l'heure quelques images. Vous avez réussi finalement quand même à esquiver ce virus ou pas ?
J'ai eu la chance, mais c'est un miracle, parce qu'effectivement, effectivement, je porte énormément mon masque, mais ça fait plus de 2 ans que je suis vraiment dans la foule, au milieu des gens, et j'ai l'immense chance de ne jamais l'avoir contracté, ou alors sous forme bénigne, mais en tout cas, je touche votre table. Je n'ai pas encore eu cette maladie.
Pourvu que ça dure, donc.
C'est clair. Et pourvu que ça ne me tombe pas en pleine présidentielle, parce que vraiment, ça m'embêterait, ça m'embêterait de louper.
Et on compte sur vous, on a besoin de vous voir.
Hein. Vous pouvez compter sur moi.
Merci Damien, et on poursuit tout de suite l'interview du Buzz Télé. Évidemment, avec toutes vos questions, comme vient de me le souffler Damien. L'instant Paul, là, je rappelle, donc c'est chaque jour 20h35 sur LCI, rendez-vous au cours duquel vous allez sur le terrain à la rencontre des candidats à la présidentielle, mais également de l'actualité en général politique. Concrètement, comment, dans les milieux de sujets qui existent, vous faites votre choix tous les jours ?
Bah, y a à la fois des dominantes qui s'imposent. Je ne sais pas, il faut prendre un exemple. Par exemple, là, dimanche, si j'étais à l'antenne dimanche, il y a évidemment la primaire populaire. Donc, j'irai dans les résultats. Et puis, le but, c'est à la fois, dans l'instant de Paul, dans l'émission d'Hôtel Krief, c'est vraiment de soit d'avoir des coulisses, soit d'avoir un contre-champ, soit d'avoir un témoignage, soit d'avoir une séquence. Donc, il faut être à la fois au cœur de la meute, pour reprendre une expression journalistique, et en même temps avoir tenté modestement un petit pas de côté ou une petite valeur ajoutée. Donc, c'est à la fois au milieu et un peu différent.
Damien, allez, question ou réaction des internautes qui nous suivent.
On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr.
C'est trop méchant.
Alors Paul, vous avez appelé aux questions sur votre compte Twitter, donc on en a évidemment récolté. Mais on va prendre celle en direct, tiens, d'Alexandre. Alors il vous félicite, hein, bravo à vous pour votre professionnalisme sur le terrain, notamment face à des anti-vax ou des gilets jaunes. On verra tout à l'heure un extrait. Et il souhaite savoir si vous êtes toujours en contact avec Yann Barthès et les équipes de Quotidien.
Bien sûr, évidemment. J'ai eu l'immense chance de travailler 2 ans petit journal et 5 ans à Quotidien, donc ça fait 7 ans. Il reste ma famille professionnel. Avant de décrocher, avant que l'antenne prenne, j'ai eu Paul Bouffard, mon ami journaliste reporter d'images, qui vient de m'appeler, bien sûr. On est, bien sûr qu'on est en contact et bien sûr que je les adore.
Vous voyez en dehors de l'antenne?
Oui, bien sûr. Entre reporters, déjà, j'ai vu Paul Gasmier la semaine dernière, Azine Ametchaouche pas plus tard que hier, Sophie Dupont, enfin les reporters, on se voit. Quoi. On a les mêmes terrains de jeu, donc on se voit tout le temps. Heureusement, j'en suis ravi d'ailleurs.
Et on rappelle, c'est la même maison mère, hein, le groupe TF1, qui contrôle ses chaînes. Je l'ai dit, hein, votre chronique, elle est quotidienne. Comment on fait pour être au sud de Toulouse avec Madame Taubira l'après-midi et en plateau chez LCI le soir? C'est le grand écart permanent?
Oui, très concrètement, lundi à 16h00 dans un lycée agricole à A1, j'ai interviewé Emmanuel Macron à 16h. Il y a eu dans une grève de train et donc à 20h30, j'étais en direct en plateau à Boulogne. Et donc, je vous avoue que comme il y a 4 heures de route, avec Lucas Privot, mon JRI, on s'est relayé, mais on a conduit un peu vite, dans le respect évidemment du code de la route. Mais c'est vrai que c'est fabuleux. Moi, je suis abonné au premier train, au premier avion, au retour le soir. Parfois, je fais des duplex, mais pour faire des duplex, il faut vraiment que ce soit un gros événement. Donc, j'évite de faire des duplex tous les soirs. Et c'est vrai que c'est fabuleux, vraiment, de sillonner, dessiner la France, quoi. Vraiment,
c'est génial. Un journaliste qui connaît le mieux la France, j'imagine, les régions françaises à date, sur LCI.
Non, sur LCI, vraiment énorme.
Et Jean-Pierre Pernaut, quand même.
Non, le service politique, d'Adrien Gindre sillonne. Enfin, je ne suis pas du tout celui qui connaît le mieux la France, mais c'est vrai que je la parcours et c'est incroyable. C'est des aventures à chaque fois.
Chasser des images inédites chaque jour, c'est pas un rythme un peu qui finit par épuiser, exténuant?
C'est un métier passion. Il faut faire des sacrifices, évidemment.
C'est pas vraiment de week-end non plus. On parlait en effet de la
première. Non, il n'y a jamais de week-end. Je bosse toujours un des 2 jours. Mais après, en,
En plus, la présidentielle, on l'attend tous les 5 ans. Déjà, c'est un métier absolument fabuleux, fait de rencontres, et c'est de l'adrénaline, c'est du plaisir aussi, très égoïste. Mais c'est vrai que je pense que pour être un bon journaliste, il faut être un peu tout le temps sur la brèche, surtout dans une chaîne d'infos. Donc oui, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a la présidentielle. Alors, Laura Bacca, avec qui je travaille, a calculé que jusqu'au premier tour, il y avait encore 40 instant poll à faire, parce qu'on est du lundi au jeudi. Mais après, évidemment, il y a le second tour. Et après, il y a les législatives. Et là, on sait que pour les législatives, évidemment, on sillonne encore la France. Donc non, c'est une passion, quoi.
Le rythme va se poursuivre.
Ah oui.
Damien.
Oui, on va prendre une question de Chris, pardon, qu'on a reçue sur Twitter, qui aimerait avoir des précisions sur Mission Convaincre, parce qu'il estime que cette émission ressemble beaucoup à La France dans les yeux sur BFM TV. Mmh. Alors, c'est vrai que, en l'occurrence, Mission Convaincre, c'est donc lundi en première partie de soirée sur LCI avec Routel Krief. Ouais. Et il se trouve que vous allez avoir un panel de 6 Français.
Exactement.
Avec Valérie Pécresse en invité fil rouge. Mmh. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu sur le papier à l'émission de Jean-Jacques Bourdin, enfin ex-Jean-Jacques Bourdin.
Attendez de la voir, mais en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai la chance, effectivement, David Pujadas et Routel Krief m'ont proposé d'avoir une petite participation dedans, mais surtout j'assiste aux réunions et j'ai cette chance-là, ça n'a rien à voir. Vous verrez lundi Valérie Pécresse, mercredi Éric Zemmour. Ouais. Là, je n'ai pas le droit de trop en dire parce qu'on garde la surprise, mais il y aura 6 abstentionnistes qui viendront de toute la France, qui viendront de façon récurrente. Il y aura, je me suis juste noté ça, un chef d'entreprise des Vosges, une retraitée du Cantal et une quadragénaire du Nord en reconversion, pour donner que la 3 indices sur 6. Ils vont revenir de façon récurrente. Il y aura au début aussi également ma collègue Anne-Fanté Minté qui fera un portrait. Et puis après, il y aura 40 minutes d'interview. Et après, il y aura ce panel-là. Donc, je vous garantis que ce sera différent et que David et Ruth ont un style qui leur appartient.
Et vous, quelle place vous allez occuper dans ce dispositif ?
Je vous laisse la surprise, mais l'idée, c'est toujours pareil, de faire de la séquence et du reportage. Pourquoi je vous dis je vous laisse la surprise ? Parce que je vais tourner ce week-end.
Donc, vous n'avez pas encore en boîte.
On a une idée, mais je ne sais pas encore si ça va marcher. Mais vraiment, j'ai énormément de chance de découvrir après Bangoumi, après Quotidien, une chaîne d'infos de l'intérieur. Et c'est vrai que ce soit avec David, que ce soit avec Darius Rochebain, je suis passé un peu dans toutes les émissions. Et c'est vrai qu'ils travaillent comme personne, justement. Donc, pour répondre à votre question, ce ne sera vraiment pas comme BFM, je vous garantis.
La première est donc lundi soir.
Lundi soir, 23h.
Comme première invitée. Récemment, vous êtes rendu auprès de militants anti-vax, anti-vaccination dans Paris. Je vous propose qu'on regarde à nouveau ces extraits de ces images.
Journaliste de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Ouais. Vous comprenez ça?
Qu'est-ce que d'après vous
Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on va pas le rester calme.
On peut parler tranquillement.
Vos directions rendent des comptes à rendre, monsieur.
Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement?
On va rester poli, oui.
On va parler tout tranquillement.
Vous avez raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur.
De quoi vous parlez?
Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-parole.
De la peur. De la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde.
Il n'est même pas grave.
Pas tous en même temps. Laissez parler madame.
Si vous avez de la chance, hein. Vous ferez ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce que la gueule, là. On devrait vous péter la gueule.
Pourquoi vous soyez violent?
Des suceurs du gouvernement. Des suceurs du gouvernement.
Des enfoirés, vous soutenez cet enfoiré de Macron, là.
Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Des injections. Les injections.
Vous pensez, monsieur, que je suis payé par les laboratoires pour faire mon travail?
Et vous, vous êtes corrompu comme c'est pas possible.
Ah, vous pensez ça?
Citez les gens au vaccin.
70% des personnes en réanimation sont non vaccinées.
Actuellement. Pas vrai, mensonge, mensonge.
Faux d'État.
Mensonge.
Perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur.
Vous êtes le suppôt de Satan. Si on regarde cette vidéo, c'est d'une violence quand même inouïe. À quel moment, dans quel état d'esprit vous êtes? Parce qu'en plus, vous ne lâchez rien. Vous restez, on va dire, plutôt imperturbable. Vous posez même des questions. On se dit là, vous allez vous faire détruire. Et comment on gère ce stress?
Malheureusement, comme tous les reporters d'LCI et de toutes les rédactions, on est habitué à voir monter vraiment la haine pure, parfois, sur le terrain. Encore une fois, ils ne sont pas tous comme ça, des antivax très raisonnés, qui ont des arguments. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète plus que cette violence, c'est vraiment le côté, on ne peut pas leur parler. C'est-à-dire quand je leur dis, voilà, il y a 70%.
La sens unique.
Voilà, vous voyez, le bandeau, il y avait marqué, faut-il soigner ou pas les non-vaccinés, ce qui est dans l'actualité, au vu des positions de Martin Hirsch, ce sujet date de début janvier. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que je voulais vraiment leur donner la parole. Et quand Florian Philippot m'a reproché de m'être cru aux os, d'avoir voulu faire du buzz, quand est-ce que cette vidéo a fait 6 300 000 vues, c'est totalement faux. Moi, je voulais vraiment donner la parole aux non-vaccinés pour demander, est-ce que vous répondez-vous à ceux qui disent que vous ne méritez pas d'être soigné parce que vous avez fait le choix de ne pas être vacciné? Donc moi, dans ces moments-là, j'encaisse. En plus, je porte le micro LCI, dont je suis profondément fier, donc je sais qu'ils filment.
Donc je sais que si je m'énerve, ils vont couper la partie où ils m'insultent et où ils me menacent, ils vont garder que le moment où je m'excite. Donc je suis un focal, moi je suis basque en vrai, donc je suis pas calme du tout. Mais je pense avant tout à la rédaction et surtout à la réponse. Et donc j'essaie vraiment de les écouter et de les calmer pour essayer d'avoir la parole. Là c'est un naufrage, parce que, en l'occurrence ce jour-là, le dialogue est impossible. Ce qui doit tous nous inquiéter en termes démocratiques.
Jamais peur?
Ça m'est arrivé deux fois d'avoir peur. En 2015, Bruno Gollnisch avait lancé, pour le dire gentiment, ordurier, mais il y avait des personnes qui vraiment nous avaient frappés avec les mains brûlées. Et je devais faire 200 mètres place de l'Opéra et j'avais eu, je le dis très simple, je le dis en toute humilité, j'avais eu peur. Et ensuite, quand j'avais demandé à Marine Le Pen si son garde du corps derrière avait occupé un emploi fictif, il y avait deux vigiles qui n'avaient rien à voir avec Marine Le Pen, qui m'avaient soulevé et qui m'avaient fait un mouvement de nuque, qui j'avais vraiment eu peur qu'il me pète la nuque. C'était en 2018, je crois. Voilà. Et depuis, je suis sur le terrain tous les jours. Là, je n'ai pas eu peur. Je suis retourné à la manif le samedi. Et comme tous les reporters, je fais juste mon métier sans haine et sans volonté du tout de faire du spectacle.
En ayant quand même un cœur bien accroché. Damien.
Oui, on va prendre une question de Flo72 sur Twitter qui aimerait savoir si ce jour-là, vous aviez un garde du corps.
Non, pas ce jour-là.
Non.
Pas ce jour-là, mais de façon générale, tous les reporters de toutes les chaînes d'infos ou boîtes de prod qui font des émissions, dans les manifs, que ce soit les Gilets jaunes ou d'autres anti-vax, il est malheureusement devenu plus que fréquent, quasi systématique, d'avoir un ou deux gardes du corps.
Et ça, ça vous indigne ou pas?
Bien sûr, parce que ça fausse mon rapport aux gens. Ah ouais. Ça fait un filtre. En plus, moi, j'ai une technique assez... Je me déplace énormément. Et quand on est entre le jury, quand on a un ingénieur du son, plus deux reporters, on est cinq. On peut beaucoup moins, dans les foules très compactes, se faufiler. Donc, bien sûr. Et puis moi, je suis en contact permanent avec les gens. Et donc, c'est vrai que ça crée un filtre qui est... Enfin, qui n'est pas intuitif, enfin, qui est contre nature pour moi avec ma fonction de reporter. Mais en même temps, pour avoir vécu aussi des moments que je ne peux pas diffuser tellement c'est violent et tellement c'est ordurier, on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Encore hier, j'ai fait une manif et il y a un crétin qui a essayé de me péter la gueule, quoi. Bon, j'avais pas de garde du corps hier, mais...
Ouais. Donc, c'est-à-dire, il a essayé de vous mettre
en quoi ? Il est arrivé, oui, voilà. Je ne veux même pas parler de ce monsieur. Hier, la manif était très bonne enfant, très bien faite et tout, mais on est toujours à l'abri, soit de gens qui représentent qu'eux-mêmes, soit effectivement, comme au meeting de Villepinte d'Éric Zemmour, où ma consoeur Sophie Dupont de Quotidien est prise à partie, il y a à la fois Éric Zemmour qui monte le visage d'Yann Barthès dans son type de campagne, donc qui attise la haine, ce qui doit vraiment... Il n'est pas le seul politique à l'avoir fait, mais il faut, je pense, le souligner. Ensuite, il y a la foule qui hue, et puis au milieu, en l'occurrence, il y avait les Zouaves de Paris qui depuis ont été dissous, et qu'eux, ils allaient à la baston. Et donc c'est ça qui doit nous interroger, je pense.
Mais vous, Paul, contrairement aux autres reporters de LCI et d'autres chaînes info, vous êtes connu parce que vous avez été un visage d'antenne assez exposé dans le Quotidien et dans le Petit Journal. Est-ce que pour cette raison, vous avez peur d'être une cible? Parce qu'on vous reconnaît, vous, sur le terrain.
Ouais.
Sur BFM TV, par exemple, les journalistes sont anonymes, ils ne sont même pas cités à l'antenne. Quand vous avez un journaliste sur le terrain, d'ailleurs, sur le bandeau, c'est écrit « journaliste de BFM TV ». Vous n'avez même pas le nom. Vous, c'est impossible de faire ça.
Ma chance, c'est que, très sincèrement, je ne m'attendais pas, mais là, hier, j'ai beaucoup de gens qui me parlent déjà de l'Instant Paul et de LCI. Donc ça, c'est ma chronique avec Route, j'ai la chance qu'elle soit installée. Hier, il y a vraiment des gens qui m'en parlaient. Donc ça évolue plus vite que je ne pensais. Je pensais que je passerais les deux prochaines années à faire des selfies en disant je ne travaille plus à quotidien. Et en fait, pas du tout. Là, vraiment, l'Instant Paul est déjà installé et déjà identifié. Ouais. Vraiment, hier, dans la manif, il y a deux jeunes que je salue et qui ont été très sympas et qui nous regardaient. Donc ça évolue plus vite que je ne pensais, ça.
Comment on explique cette violence que vous expliquiez à l'instant et cette haine du journaliste aujourd'hui, d'une manière générale, y compris de la part des politiques?
Je pense que certains s'auto-intoxiquent dans leur boucle de mail, dans leur WhatsApp, et c'est pas du tout des gens bêtes. C'est des gens intelligents, parfois âgés, qui ont beaucoup de temps libre, qui essayent de s'interroger et qui ne croient plus notre discours. Alors, il y a probablement une partie, collectivement, on a probablement des torts. Peut-être qu'on a été parfois un peu trop proche du système, ou peut-être qu'on a peut-être pas... Enfin, je pense qu'il faut qu'on se remette en partie en question. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui font de l'argent, et je vous recommande l'excellente émission de mon collègue Thomas Huchon, anti-complot, tous les vendredis sur LCI, qui démine, je sais qu'il prépare un truc, notamment sur cet après-midi là-dessus. C'est vrai que c'est une tendance de fond qui nous vient des États-Unis, mais pas seulement, qui mord en France, et qui doit, je pense, nous inquiéter, mais vraiment en termes démocratiques. C'est-à-dire qu'il faut leur parler, il faut comprendre. Ils ne sont pas bêtes, mais ils sont parfois effectivement instrumentalisés, soit par des politiques, soit par des gens qui ont un agenda juste pour, voire même parfois des étrangers, pour ne pas citer les Russes parfois, qui soufflent sur les braises. Et c'est vrai que c'est un thème majeur de cette présidentielle et de la précédente d'ailleurs. Ça avait déjà commencé.
Damien.
Allez, Valérie qui note effectivement que vous allez recevoir Éric Zemmour dans Mission Convaincre mercredi sur LCI. Et elle s'interroge, elle souhaite savoir quel est l'intérêt de recevoir cet homme politique, sachant qu'on l'a déjà vu 12 000 fois à la télévision. C'est vrai qu'Éric Zemmour, à un moment donné, on peut deviner les réponses qu'il va donner en fonction des questions, voire même donner les citations à l'avance.
Bah,
J'entends. Et moi, on m'a beaucoup reproché au tout début de faire des sujets sur Éric Zemmour, ouais. Ce que je revendique à fond, parce qu'il a bien été candidat à l'élection présidentielle. Ben, parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Dans les 5 premiers, pour le moment, pour ce que valent les sondages, il faut prendre du recul, bien sûr. Il faut le dire, sur le terrain, il y a encore beaucoup de monde dans ces meetings. Je pense qu'on n'a plus le pouvoir, comme certains ont tenté de le faire avec l'extrême droite, de certains journalistes se sont dit, si on ne couvre pas, ça n'existe pas. Ça existait longtemps, là, ce n'est pas le cas. Même sans nous, journalistes, il existe. Donc, il faut le traiter comme les autres. De façon, voilà, et je ne révélerai pas les réunions que j'ai citées avec David Pujadas et Rotel Krief, mais on va le traiter de façon professionnelle, avec, de façon originale, avec encore une fois les abstentionnistes dans Mission Convaincre, mercredi, en prime sur LCI. Et ce sera important, mais de même qu'on aura Valérie Pécresse, on aura tous les candidats. Et quand il est venu face à Rotel Krief, on l'a traité. Vous vous souvenez, il y a des moments
assez forts. On n'était pas loin de l'invective.
Voilà. Il aspire au pouvoir. Nous, en tant que journalistes, on fait partie du contre-pouvoir. Donc, c'est le jeu démocratique. Ouais. Et aussi, c'est important, je pense, de détailler tous les programmes, que les citoyens puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur programme. Et vraiment, sur le fond, on détaille. Et moi, ma tentative, c'est de ramener un peu de séquence, un peu de reportage. Et c'est ce que j'essaierai de faire.
On reste encore un peu avec Éric Zemmour. C'était au Salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Le candidat présidentiel avait joué les snipers en mettant en joue les journalistes. Et au bout du canon, notamment, c'était vous, pour être clair. Comment vous aviez réagi à ce moment-là? Lui a dit après que c'était de l'humour. Oui. Et...
Alors, moi, sur le moment, vraiment, il a dit après qu'il assumait sa part d'enfant, je crois. Et c'est vrai, très sincèrement, à ce moment-là, que j'ai senti une forme de malice.
Un gosse
qui jouait avec un gun. Après, moi, en fait, à ce moment-là, exactement comme avec l'antivax, j'entends le monsieur qui lui fait la démonstration du sniper, lui dire quand vous serez président, Éric Zemmour qui répond oui. Et donc moi je me dis, il n'était pas encore officiellement candidat à l'époque. Et donc moi je suis en mode, il faut que j'obtienne une réponse là-dessus. Et donc je tends le micro et je ne fais pas attention. Je me dis, c'est pas une mouche, mais je ne fais pas hyper. Enfin, ça se passe très vite, etc. Et ensuite j'ai un confrère qui m'envoie un photographe qui prend la photo, qui me l'envoie. Et là je vois effectivement Éric Zemmour, un énorme sniper. Et moi je fais, mais c'est vrai que l'image elle est.
C'était pas une mouche.
C'était voilà. et donc certains m'ont dit que tu aurais dû partir, etc. Moi, ma technique. Je revendique le fait immédiatement, tout de suite, je lui ai fait. Mais en fait, pourquoi vous avez braqué la presse? Je suis pas seul dont il a braqué. La photo est sur moi, mais au début, il a vraiment braqué tout le monde. C'est important de le dire. Je suis pas du tout le seul. Et donc, je lui ai voulu demander. Mais quoi, vous prenez pour Donald Trump? Enfin, moi, ma technique de reporter, c'est d'être sur le terrain, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quoi qu'il arrive, qu'il y ait violence ou pas, rester imperturbable et essayer d'avoir des réponses aux questions que j'estime légitimes. Et là, il m'a dit non, pas du tout. Après, voilà, il a dit ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que cette image, je comprends. Qu'elle est choquée, mais je revendique le fait d'être resté, d'avoir tenté d'obtenir des réponses.
Damien.
Allez, on va prendre une question tout de suite de Laurent. Laurent qui aimerait savoir si vous aimeriez faire de la politique.
Non, alors, jamais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, alors des chroniqueurs plus que des journalistes qui s'engagent effectivement dans l'univers de la politique. Hein, Charles Consigny, Émeric Caron, les deux derniers en date. Mmh. Vous, ça ne vous tente pas?
Non, jamais. Non, jamais. Moi, j'adore la politique que je considère comme noble, contrairement à certains. Mais moi, je suis un journaliste politique passionné. J'adore mon métier. J'ai envie d'évoluer, de continuer, d'apprendre. Je suis reporter, d'apprendre progressivement l'interview politique. Et j'ai la chance de travailler avec Rotel Krief qui m'en apprend, mais tous les soirs. Quoi. Vraiment, je me régale. Mais moi, je ne ferai pas de politique. Je n'ai pas du tout cette tentation. Exactement.
Instant Paul, donc on vous l'a dit, fait partie aujourd'hui de la tranche intégrante de Rotel Krief. Vous pourriez voler de vos propres ailes. On pourra faire un vrai rendez-vous à part entière.
Je crois que c'est déjà un vrai rendez-vous à part entière. Enfin, je l'espère.
En dehors, évidemment, de la tranche animée par Rotel Krief.
J'ai rencontré Thierry Tuilier et Fabien Namias qui m'ont proposé ça.
Ils sont les patrons de la chaîne.
Grand patron. Et moi, je m'éclate dans cette chaîne d'info où j'en apprends tous les jours. Je participe des fois, quand c'est pas pour l'instant Paul, à des petites éditions spéciales. Vraiment, le service politique mené par Adrien Gindre, c'est des confrères incroyables. C'est la bourrive avec Zemmour. Enfin, à chaque fois, moi, je couvre un peu tout, enfin, ce que je veux. Et c'est vrai que. J'apprends vraiment énormément de choses. Donc pour l'instant, moi je suis très heureux de travailler pour Rotel Krief qui vraiment m'apprend et c'est pas du tout. Moi, si les choses que je pense pas, je les dis pas. Donc vraiment, j'ai la chance d'avoir une vraie relation avec elle m'apprend énormément de choses et j'ai adoré dans les émissions passées où elle m'a invité vraiment voir comment elle prépare. Vous voyez, les débats LR, les porte-parole, le place aux jeunes là, de mercredi. J'étais avec Christophe Beaugrand aussi, qui est là depuis 99 à LCI et qui est très généreux aussi pour me donner plein de conseils. Donc moi je suis vraiment. En apprentissage, c'est-à-dire je fais du terrain, j'adore ça, j'ai envie de faire de l'interview politique, J'en fais déjà beaucoup sur le terrain, j'ai envie d'en faire plus, j'ai plein de rêves, mais je suis très très heureux là où je suis. Je suis pas en train de...
Et votre ambition, c'est de garder le terrain justement, de ne pas finir dans un studio, on parle les deux. Des entretiens.
Les deux. Les deux, j'adore les deux. J'adore le fait de parcourir la France, de prendre un avion, d'arriver en courant dans un studio et d'être face à un politique. Hier par exemple, j'étais face à Agnès Pannier-Runacher et donc j'ai fait un vrai sujet avec...
Ministre de l'Industrie.
Pardon, je ne présente personne, mais excuse, merci d'être là. et donc j'ai vraiment fait tous les candidats sur le pouvoir d'achat avec la question comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat sans cramer la caisse, qui est une expression de Valérie Pécresse. Et à la fin, j'ai rencontré le sosie de Jean-Michel Blanquer. Et j'adore faire voilà, vraiment tous les candidats avec les confrères du service politique qui l'ont demandé à travers la France. Et à la fin, j'ai le sosie de Jean-Michel Blanquer. Ça m'amuse de me le montrer à la ministre. Et que, voilà, bah,
ah,
vous êtes rapide.
On est fort.
Exactement. Ça m'amuse énormément.
On est de régie réactive.
mais c'est le mélange des deux. C'est à la fois d'être vraiment à LCI et TF1, vraiment, c'est une machine de guerre où tout se passe chez nous. Mais je pensais pas que, enfin, vraiment, tout se passe, enfin, tous les jours, que ce soit dans la culture avec Stromae, moi j'ai adoré ce moment-là, toutes les éditions spéciales qu'on a fait, voilà, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment tout se passe chez nous, et en même temps c'est un laboratoire pour moi qui est fabuleux, vraiment. Et tous les jours on tente, j'ai une liberté éditoriale absolue, je pose des questions que je veux. Il y a uniquement Ruth Elkrief qui voit mon sujet avant que ce soit diffusé. Et c'est, vraiment, je m'éclate.
Donc, jamais eu de censure, donc.
Jamais, alors, mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Parfois de l'auto-censure, parce que parfois, je vais un peu loin, moi, dans mes questions. Après, je me dis, peut-être c'est la question too much, je ne veux pas sombrer dans la provocation, je ne veux pas au montage, c'est facile de voilà. Donc, je fais attention à... J'essaie d'être responsable, mais j'ai vraiment une liberté totale, vraiment.
Damien, une dernière question.
Oui, ben on va reprendre une question d'Alexandre, puisqu'il a noté que vous aimeriez un jour faire de l'interview politique. Ouais. Quelle est la personnalité politique, française ou étrangère, d'ailleurs, que vous rêveriez d'interviewer?
Je plaisantais avec des amis en disant que j'aurais adoré interviewer Napoléon.
Ah oui ?
Il est mort.
Ah oui, ça va être compliqué.
Que je rêverais. Bah, j'ai vraiment la chance, en tout cas en France, vraiment d'avoir eu. Enfin, moi, couvre la présidence de la République depuis 5 ans, donc je couvre Emmanuel Macron à Tourcoing jeudi. Donc, ouais. Non, en France.
Oui, en France, pourquoi pas. Est-ce que le fait déjà d'avoir eu un entretien avec Emmanuel Macron, même si c'était sur le terrain, est-ce que déjà pour vous ça c'est une fierté? Le président de la République, est-ce que petit vous imaginiez ça lorsque vous voulez devenir journaliste?
Bah, moi je suis très heureux, en tout cas des retours des lecteurs. J'ai écrit un livre qui s'appelle Élysée confidentielle,
oui,
et voilà, sur l'Élysée, et vraiment je suis très 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 heureux de retours des lecteurs parce que j'ai partagé ça. Ouais. Et donc je dirais pas fier, mais je suis heureux d'avoir avec Elliot Blondet fait ce livre de textes et de photos, justement pour essayer de partager ce que c'est de couvrir la présidence de la République, parce que c'est vrai qu'on est des privilégiés.
Bien sûr.
Et en même temps, il faut toujours avoir du recul. C'est pas mon ami, on se tutoie pas, on dîne pas, on s'appelle pas hors antenne, c'est le président de la République, je suis un reporter parmi d'autres. Et donc je fais très attention à garder cette distance, notamment parce que pour les citoyens, ils le voient quand on est connivant. Et moi, je touche du bois, mais j'espère ne jamais avoir sombré là-dedans. J'espère.
Chacun dans son rôle.
J'espère.
Voilà. Allez, on vous garde encore un petit moment, Paul, pour notre dernière rubrique en toute franchise. C'est simple, hein, vous allez répondre à nos questions avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait depuis le début de ce rendez-vous. Votre plus beau souvenir de carrière?
J'ai adoré faire le sujet sur les enregistrements de Laurent Wauquiez à l'EM Lyon. C'est moi qui fais le sujet et ça reste un grand souvenir parce que Yann Barthès et Laurent Bon déjà m'avaient fait, et Guillaume Hénette, mon rédacteur en chef à l'époque, m'avait fait confiance absolue. Je leur avais dit peut-être que Laurent Wauquiez peut un peu se lâcher face à ses étudiants. Il m'a dit vas-y, je suis parti à Lyon, j'ai tenté le truc. Je dirais pas comment j'ai fait. Et à la fin, je me souviens, j'étais dans les toilettes d'un restaurant, j'avais récupéré la bande et je l'écoute et je trouve ça fou. Et donc ensuite, on est rentré, on l'a monté, on a fait les choses de la façon la plus propre possible. Mais je crois que c'est parce que c'est ce qui m'a incité à tenter. Écouter son intuition. Alors, très souvent, vous ne le voyez pas en scène, mais ça plante. Il y a plein de sujets que je tente qui se fracassent sur le mur de la réalité, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est vraiment cool.
C'est jouissif.
C'est vraiment cool.
Quel est le pire souvenir de votre carrière maintenant?
Pire souvenir. Celui dont on parlait tout à l'heure, quand j'ai demandé à Marine Le Pen si son attaché parlementaire, son garde du corps avait eu un emploi fictif, voilà, se faire soulever vraiment à ce moment-là, c'est très désagréable. Voilà.
Ouais. Donc, c'est humiliant, c'est...
Déjà, c'est pas normal. Puis à l'époque, j'avais un peu moins fait, donc j'ai eu tendance à m'énerver. Il faut jamais s'énerver dans ces moments-là, parce que plus on s'énerve, plus... Voilà. Donc oui, non, c'était désagréable. Après, ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas empêché de continuer. Mais c'est vrai que cette violence, elle est désagréable.
Mais est-ce qu'on se remet en question à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, finalement, ce métier, il est pas fait pour moi parce que je supporte pas ça, en fait?
Non, alors j'ai la chance d'adorer ce que je fais, d'être vraiment un privilégié, donc je me suis jamais eu la tentation d'arrêter. Mais c'est vrai que moi, je me me remets tout le temps en question, et surtout en fait sur la légitimité de mes questions, parce que des fois quand on est tout seul au milieu d'un écosystème, on peut avoir le sentiment d'être un intrus, mais tant que je crois à la légitimité de ma question, il n'y a rien qui m'arrête.
Est-ce que vous avez un tic, une manie, voire un toc avant de partir en tournage ou sur un tournage, sur un plateau?
Un toc. Tout le monde dit que je bouge énormément les jambes. Je suis très nerveux. Quand je téléphone, je fais des tours, etc.
Ça se voit pas sur ce plateau.
Je suis un peu dur à suivre. Ouais. Voilà.
Vous posez jamais.
Vous êtes quoi? Très nerveux.
Oui, je suis très. J'ai un peu trop d'énergie. J'ai un peu de mal à canaliser mon énergie.
Si vous n'aviez pas été journaliste, reporter, quel autre métier vous auriez pu exercer?
Jusqu'en 5e, je voulais être archéologue.
Ah.
Mais depuis, je veux être journaliste. Je suis très heureux là où je suis.
C'est vrai, pas d'autre vie d'archéologue.
Non, je me sens vraiment extrêmement chanceux.
Qu'est-ce qui vous déplaît dans votre physique et dans votre caractère?
Ah ouais,
on va loin.
Dans mon physique, tout. et dans mon caractère, je suis trop intense, je pense. Ça coûte cher parfois.
Ça coûte cher.
Allez, on va rester dans le cher puisque je vais vous demander quel est l'objet le plus précieux que vous possédez. Alors attention, pas forcément d'un point de vue financier, mais peut-être d'un point de vue sentimental.
Je ne la montrerai pas, mais c'est la montre que dont j'ai hérité de mon grand-père, Michel Larotiro. C'est l'objet le plus important pour moi. Voilà.
Alors, vous êtes dans la politique et vous couvrez déjà l'élection présidentielle. Vous recevez un certain nombre d'invités. Soyons fous, faisons un peu de fiction. Vous êtes élu chef de l'État. Oula, la première décision que vous prendriez? La première mesure.
Wow, elles sont dures vos questions. Comme tu vois, c'est moi qui les pose en plus. Je pense qu'il faut, c'est ce qu'on montrera dans Mission Convaincre. Il y a un vrai problème avec l'abstention. Donc il faut prendre de frontal. Et moi, c'est vraiment ce que je chante en journaliste politique. Les gens, vraiment, beaucoup n'en ont absolument plus rien à faire de la politique. Donc il faut arriver.
Remotiver.
Voilà, moi je suis pas candidat, je suis pas président, mais il faut impérativement arriver à reparler à cette France-là qui pense que la politique n'a plus aucun pouvoir. C'est vaste, mais je pense que vraiment, c'est la priorité. Et nous, en tant que journalistes aussi, on a beaucoup à faire en termes de pédagogie et d'indépendance, et c'est ce qu'essaie de faire Rotel Krief.
Dernière question peut-être, Damien, mais plus légère.
Plus légère. Allez, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment?
La chanson, non.
Parce la que, musique
non, mais sur Spotify, je fais des playlists, donc je regarde un peu les découvertes. Là, j'ai pas...
Il n'y a pas de chanson en boucle en particulier?
Non, qu'est-ce que j'ai...
On parlait de Stromae tout à l'heure sur le plateau de...
Ah, alors oui, mais elle est triste, heures. Mais d'actualité, oui, effectivement, L'enfer de Stromae. Je sais pas où, moi j'étais devant ma télé, je m'entendais une interview basique, j'étais pas dans la confidence, et c'est vrai que ce plan séquence là sur... cette tristesse et cette culpabilité était un grand moment. Donc c'est vrai que je l'ai pas mal écouté sur le terrain. C'est vrai, avec mes AirPods.
Bon, après, si c'est Wesh alors de Jules, vous pouvez le dire aussi.
Non,
attention,
non, je le dirai,
hein.
Mais c'est pas le cas.
Damien. Allez, merci Paul Routou.
Merci Paul.
D'être venu dans le Buzz Télé. Je rappelle, on vous retrouve l'Instant Paul, hein, chaque jour à 20h35 sur LCI. Et également, donc, ce nouveau rendez-vous qui démarre dès lundi en prime time sur LCI avec Valérie Pécresse. Et nous revenons lundi.
Effectivement, on va dormir ce week-end. On revient lundi avec une animatrice que vous découvrez parfois dans le 1945. Si vous regardez cette émission, elle est aux commandes d'Enquête Criminelle. Elle va prendre les rênes d'un nouveau numéro d'Appel à Témoins en compagnie de Julien Courbet. Il s'agit de Nathalie Renoux que nous recevrons lundi sur ce plateau.
Merci encore et
merci
bon week-end.
Merci beaucoup. Merci.